Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Lundi 16 février 2026, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Et vous avez vu qu'Andy Girac a donné un concert surprise à l'usine à Rennes en mode incognito ce week-end, non ?
Ouais, j'ai cru voir passer l'info.
Tu étais ou pas ?
Ah non.
C'est que t'as passé un bon week-end. Alors, tout de suite, le flash de Lola.
Apaiser les tensions entre Paris et Alger. Invité par le ministre de l'Intérieur algérien, Saïd Sayoud, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, est aujourd'hui jusqu'à demain en déplacement en Algérie. Au programme de cette réunion, des questions de sécurité, dont la lutte contre le terrorisme, le narcotrafic, mais aussi l'immigration illégale. La question des réadmissions des ressortissants algériens sous OQTF est toujours sur la table diplomatique. À ce jour, aucun d'entre eux n'a été accepté par Alger, selon RTL. Début février, Laurent Nunez a affirmé attendre pour se rendre en Algérie une amorce de réponse d'Alger à ce sujet. Le cas de Christophe Glaize est aussi au centre de l'attention. Ce journaliste sportif français a été arrêté en mai 2024 en Kabylie et condamné début décembre à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Le ministre affirme cependant ne pas vouloir montrer les dents. Pour lui, l'objectif reste principalement de rouvrir le dialogue entre les deux pays. 59 morts, c'est le bilan dressé par les autorités locales 6 jours après le passage du cyclone Jezani à Madagascar. Les rafales ont atteint jusqu'à 250 km/h et ont semé la destruction dans le nord-est de la grande île de l'océan Indien. La plupart des victimes de Jezani sont recensées dans la deuxième métropole de l'île Toamasina. Plus de 800 habitants et habitantes ont été blessés et 16 000 ont été contraints de quitter leur foyer. Début février, Madagascar a déjà été frappé par le cyclone tropical Fitia. La catastrophe a laissé 7 morts derrière elle et plus de 20 000 déplacés. Sur place, l'ONU l'affirme, la ville fonctionne avec environ 5% de son approvisionnement en électricité et il n'y a pas d'eau. Le cyclone poursuit sa trajectoire vers le Mozambique. Ce week-end, il a déjà pris la vie de 4 personnes en Afrique de l'Ouest. À ce jour, 15 malgaches sont encore portés disparus. Des masculinistes saturent le 39-19. La ligne d'écoute nationale dédiée aux violences faites aux femmes est occupée par des appels malveillants, sexistes et virulents. Depuis fin janvier, le ministre de l'Intérieur décompte une centaine d'appels de ce type. Fin janvier, la porte-parole de la Fédération nationale Solidarité Femmes, Camille Lextrait, parlait déjà de tentatives de saturation de la ligne. Les masculinistes en question appellent à l'ouverture du 39-19 aux hommes au nom d'une discrimination anti-hommes, alors que d'autres dispositifs existants et adaptés leur sont d'ores et déjà attribués. Selon la ministre de l'Intérieur, ces appels s'inscrivent dans un contexte plus large de montée en puissance de la menace masculiniste organisée et décomplexée, à rappeler que selon le dernier rapport du Haut Conseil de l'égalité, 39% des hommes en France pensent qu'aujourd'hui, le féminisme est une menace pour leur place dans la société. Une rafale de plaintes contre des agents scolaires parisiens. Dans le 7e arrondissement de la capitale, pas moins de 9 professionnels auraient été suspendus en 2 semaines, selon Mediapart. Des parents dénoncent, je cite, des faits d'une particulière gravité concernant l'encadrement de très jeunes enfants dans le temps périscolaire. De son côté, la mairie reste silencieuse, même si elle a suspendu un directeur d'établissement dès fin janvier. À ce moment-là, des vidéos montrant des faits de violence physique sur les élèves sont publiées. Selon le média d'enquête, Rachida Dati aurait ignoré et sous-estimé l'affaire, se refusant à communiquer sur celle-ci. L'année dernière à Paris, une 40aine d'animateurs ont été suspendus, dont une 20aine pour suspicion d'agression à caractère sexuel. L'affaire suit son cours. Un bagage suspect à proximité du local de LFI à Rennes. La police municipale a été prévenue hier après-midi de la présence d'un petit sac en plastique transparent. Rempli d'une poudre blanche, il aurait été déposé devant la porte du local des Insoumis. Un périmètre de sécurité a été établi de 14 à 19 heures autour des lieux. Les démineurs sont intervenus vers 17 heures afin d'en tester la substance. Le bilan est tombé. Après quelques heures, ce n'était ni explosif ni nocif, a affirmé la police. Les autorités restent cependant prudente après une rixe entre militants d'extrême droite et d'extrême gauche qui a viré au drame jeudi soir à Lyon quand un 23 ans militant nationaliste est mort après avoir été passé à tabac. Beaucoup de zones d'ombre questionnent sur les circonstances exactes de sa mort et sur l'éventuelle implication de l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud, cité par plusieurs témoins dans l'enquête. Romane fait le point sur les dernières avancées.
Une enquête est ouverte pour homicide volontaire, violence aggravée et association de malfaiteurs après la mort de Quentin Derenque. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le procureur de la République, Thierry Dran, lors d'une conférence de presse. Selon les premiers éléments, le jeune homme aurait été frappé par au moins 6 individus masqués et cagoulés. L'autopsie révèle essentiellement des lésions à la tête. Le président de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a annoncé aujourd'hui la suspension à titre conservatoire des droits d'accès au palais Bourbon de Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député LFI, Raphaël Arnaud. Son nom est cité par plusieurs témoins dans le cadre de l'enquête. La présidence de l'Assemblée nationale préside que la mesure est présentée comme conservatoire et sans préjudice des suites de l'enquête judiciaire. En conférence de presse cet après-midi, le procureur a temporisé sur le cas de Jacques-Élie Favreau. Je cite « Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'interpellation. Nous sommes en phase d'identification. »
Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé jeudi soir à Lyon ?
Quentin Derenque participe alors à une manifestation en marge d'une conférence organisée à Sciences Po Lyon par l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Il est 17h40 devant l'IEP. Des militants et militantes identitaires lancent une contre-manifestation en face des militants et militantes d'extrême gauche. La tension monte très vite, des affrontements éclatent, la police intervient mais les heurts se déplacent dans une rue voisine. Une vidéo montre 3 personnes violemment frappées, 2 parviennent à se relever, Quentin Derenque, lui, reste au sol. Il finit par se redresser, visiblement très mal en point. 1h30 plus tard, il s'effondre, les pompiers interviennent, Quentin souffre de commotion cérébrale, il succombera à ses blessures 2 jours plus tard, samedi soir. Sur les réseaux sociaux, l'extrême droite accuse la Jeune Garde, groupe antifasciste soutenu par la France Insoumise. Des noms et des photos circulent, dont celui de Jacques-Élie Favreau, présenté comme fondateur du collectif. Dans un communiqué paru hier, la Jeune Garde conteste toute responsabilité et informe avoir suspendu toutes ses activités depuis sa dissolution en juin dernier. Des propos remis en cause par le collectif d'extrême droite Némésis. Selon ce dernier, Quentin Derenque participait au service d'ordre chargé de protéger des militantes opposées à la conférence de Rima Hassan.
Mais cette affaire, elle fait beaucoup réagir et elle divise les responsables politiques.
Oui, hier soir sur France 2, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, affirme que l'ultra-gauche était à la manœuvre. Il évoque, je cite, « l'implication manifeste d'un groupuscule ». Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a lui aussi attribué l'agression, je cite, « de manière incontestable à l'ultra-gauche ». La porte-parole du gouvernement, Maud Brigeon, dénonce la responsabilité morale de la France insoumise. Elle accuse le mouvement de Jean-Luc Mélenchon d'entretenir, je cite, « un climat de violence ». À gauche, le ton est tout autre. L'écologiste Sandrine Rousseau appelle à la prudence. Elle parle d'une espèce de cabale incroyable et rappelle qu'à ce stade, aucun lien formel n'a été établi entre LFI et l'agression.
Contrairement aux rumeurs qui circulaient depuis le début de l'après-midi, aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade. Le procureur de la République de Lyon insiste sur le manque d'éléments pour répondre précisément aux questions. L'enquête se poursuit, répète-t-il, des investigations sont en cours. Le 1er février dernier, Janice et Joséphine se sont rendues au rassemblement organisé par un collectif de citoyens et citoyennes iraniennes habitant à Rennes. Tous les week-ends, ils et elles se réunissent pour mettre en lumière la situation actuelle en Iran. Un reportage de Joséphine et Janice.
Vous avez pris la parole pendant le rassemblement. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer un peu pourquoi est-ce que vous organisez ce rassemblement ?
Je suis Hamza Safareh. Je suis à Rennes en France depuis 12 ans. Et nous nous sommes rassemblés pour soutenir nos proches qui sont en Iran, qui sont allés dans la rue il y a 2-3 semaines, qui se sont fait carrément massacrer. Et donc on s'était dit on viendra pour soutenir. C'est très facile pour nous parce que nous, on est en pleine sécurité, mais pour admirer les proches qui sont là-bas, qui sont dans la rue face aux balles réelles des régimes.
Pourquoi nous sommes ici ? Pour la justice ! Le peuple iranien désarmé !
Le peuple iranien désarmé !
Internet coupé !
Internet coupé !
La vérité étouffée !
La vérité étouffée !
Le monde regarde !
Le monde regarde !
Et il sautait !
Et il sautait !
Bonjour, je suis Zara. Donc, je suis parmi des gens engagés qui ont pris la responsabilité de rassembler chaque semaine les Iraniens et les Français, bien sûr, pour la justice, pour témoigner ce massacre actuel.
Et l'espoir pour demain, c'est peut-être une intervention des États-Unis, du coup.
Notre espoir, c'est l'espoir d'aide de communauté internationale, en fait. C'est pas qu'aux États-Unis, c'est pas qu'Israël. Là, parce que voilà, on va pas entrer dans les slogans politiques en fait, mais je pense qu'il faut que le monde entier ouvre l'œil sur cet état qui est dangereux pour le monde entier, enfin pour tout le monde. On nous a toujours reproché que vous n'avez pas une alternative en fait. Après ces manifestations, la seule personne qui a pris la responsabilité et le soutien du peuple, c'est Reza Pahlavi qui est venu avec une promesse, c'est-à-dire un moment de passage pour que le régime disparaisse. Il va être juste une alternative pour permettre à l'Iran d'avoir des élections laïques. Et le choix, c'est aux mains du peuple. En tout cas, c'est avec cette promesse qu'on le soutient. Mais le peuple iranien ne cherche pas de retour en arrière, mais il veut avancer pour avoir un pays laïque république.
Un reportage de Joséphine et Janice. Plus de balades possibles dans les parcs rennais cet après-midi. Après les inondations, vient le vent. Entre 13 et 18 heures, l'Ille-et-Vilaine est placée en vigilance jaune en raison de rafales de vent jusqu'à 90 km/h. La mairie a donc décidé de prendre des mesures exceptionnelles. Les parcs du Tabor, Saint-Georges, Auberture et Morpa, ainsi que les cimetières, ont fermé depuis 13 heures. Dans un communiqué, la municipalité déconseille aux habitants et habitantes de se rendre dans les autres parcs de la ville jusqu'à nouvel ordre. Quant aux crues, la mairie l'affirme, la situation est rassurante en ce début de semaine. L'île ne fait plus l'objet d'une vigilance. Les niveaux d'eau au canal et aux prairies Saint-Martin ont tendance à baisser. La vigilance reste cependant toujours de mise autour de Pont-Réan et Bru.
C'était le flash de Lola, merci à toi.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Estelle prend le relais pour l'interview.
À Rennes, les marges de l'îlot de l'Octroi vont bientôt être couvertes de mosaïques. Nos stratigraphies, désolé, j'ai un peu de mal avec ce mot.
C'est pareil pour tout le monde.
Est une œuvre urbaine participative réalisée par les Rennaises et Rennais dans le cadre du budget participatif de la ville. Pour en parler, je reçois Marie Martin, mosaïste professionnelle en charge de la transmission technique et de l'encadrement des ateliers, et Marine Fruguès, graphiste pour la conception et la direction artistique. Bonsoir.
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 Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi le projet Nostratigraphie ?
Parfait. le projet, en fait, je vais rebondir sur l'actualité là, qui s'est un peu brassée avant. C'est qu'en fait, on essaye de faire un petit combat, un humble combat, de montrer qu'on peut se rassembler. Donc c'est un projet d'art en commun où on est tous des inconnus et qu'on s'accueille, on s'enveloppe, on se protège, on se rassemble, on laisse la place aux différentes identités, qu'elles soient des identités individuelles, mais aussi nos identités collectives de René.
Et comment il est né ce projet ?
Alors, il est né donc c'est un budget participatif. La personne qui a déposé ce budget s'appelle Nicolas Aymar. Il est animateur en EHPAD. Après un voyage au Brésil où il a vu l'escalier de Célarone, il s'est dit mais pourquoi pas à Rennes, et avec ce côté tout grisonnant qu'on peut voir partout, l'îlot d'Octroi, un endroit où il devait passer assez régulièrement. Et donc voilà, son projet a été validé par la ville, puis son projet a été validé par les Rennais. Et donc, quand c'est validé, il faut trouver ensuite des personnes qui le prennent en main. Et moi, j'ai répondu avec une collègue, Caroline Salle, qui est mosaïste aussi à Rennes. On a répondu à ce projet pour encadrer des groupes et lui donner une dimension, la dimension humaine que souhaitait Nicolas, en fait. Je l'appelle Nicolas parce qu'on se connaît maintenant. Et donc voilà, son but, c'était pas que ce soit l'œuvre d'un ou d'une artiste, j'aurais dû le dire à l'envers, d'une ou d'un artiste, et mais plutôt que ce soit celle de, justement, d'habitants. Et moi, ça m'a interpellée et plu, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà de désirer dans mes bagages. Donc j'ai répondu en faisant une note d'intention. Et ma note d'intention est passée.
Et moi, j'ai fait pareil pour l'appel à projet, donc de proposer un visuel. Et du coup, en fait, c'était proposer un visuel. Et ma proposition, c'était une non-proposition. C'est-à-dire que pour qu'elle puisse être vraiment accaparée par les personnes, c'était juste une trame générale que j'ai donnée, donc l'idée des stratigraphies, mais que, dans laquelle après tout le monde pouvait s'inscrire, trouver sa créativité, trouver sa place et trouver la façon de s'accorder les uns avec les autres.
Et oui, donc pour revenir au titre de ce projet, Stratigraphie, pour être honnête, quand je l'ai lu pour la première fois, j'étais là en mode « Oula, qu'est-ce que ça signifie ?» Donc je suis allée voir une définition et c'est l'étude de la stratification des roches sédimentaires et de l'âge relatif des terrains. Et donc je me suis demandé, c'est quoi le...
Qu'est-ce que ça fait là ?
Oui, c'est quoi le lien avec la mosaïque et ce projet ?
En fait, c'était toujours sur cette notion d'identité, c'est des strates géologiques. En fait, c'est les stratigraphies, c'est les représentations graphiques des strates géologiques. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de cours d'histoire géo où il y a des petites croix, des petites hachures, des petites choses comme ça. Et je trouvais que dans ma projection de mosaïque, mais de grosse néophyte, je me disais que ça pouvait graphiquement être vachement intéressant. Et c'est l'idée justement qu'on s'empile, qu'on ait des couches les uns sur les autres, à la fois dans nos propres identités, mais aussi tous ensemble collectivement, et que c'est assez mouvant et c'est assez dépendant en fait, des uns des autres, des sédiments, de la pose des sédiments. Et c'était un peu aussi comme des méandres d'eau, parce qu'il y avait le lien avec le jardin de confluence. Et du coup, c'est comment on s'empilait les uns les autres, comment on s'emboîtait, comment... Non, c'est peut-être pas terrible de dire ça.
Ouais, c'est pas mal, ça me fait un peu rire, mais c'est bien.
Donc oui, c'est voir un peu comment la collaboration entre les 800 Rennais, du coup, qui participent à ce projet, peut s'organiser et comment chacun aussi met sa patte à cette œuvre-là. Parce que la mosaïque, c'est le fait d'assembler des fragments différents. Du coup, est-ce que ce projet reflète la diversité rennaise qu'on peut retrouver ?
Oui. Donc pour moi, la mosaïque, donc, c'est l'art de déconstruire pour reconstruire et c'est l'art d'assembler et de rassembler. Donc déjà, de pouvoir faire plein d'ateliers avec des personnes différentes. L'idée de Nicolas était une représentation du monde, que cette mosaïque représente le monde et représente l'ouverture de la mairie de Rennes sur le monde. Et je me suis dit, comment représenter le monde au travers Rennes ? Donc il y avait plein d'entrées différentes, donc déjà c'est représenter tous les quartiers. C'est ensuite représenter des classes d'âge plus importantes possibles, en fait, du petit enfant jusqu'à la personne en EHPAD, donc là où peut travailler Nicolas. Et donc voilà, j'ai identifié, j'ai contacté différentes structures, avec, voilà, puis avec aussi ce que je suis. Et il y avait aussi quand même à rappeler trois points dans l'écriture, le cahier des charges. Il fallait que ce soit des personnes issues des apprentissages, de l'insertion et des institutions. Donc c'était une base et je suis allée plus loin en fait. Et puis comme j'avais déjà des connaissances, il y a certains que j'ai recontactés, d'autres avec qui j'avais envie de travailler. Donc j'ai proposé, donc ça va des écoles aux associations, mais les associations au sens large, parce que ça peut être des centres sociaux, ça peut être des associations culturelles, mais ça peut être aussi des associations de réinsertion, d'insertion. Tout court, nous sommes allés aussi en prison, nous sommes allés voir auprès des femmes, en maison d'arrêt. Bon bref, il y a plein de monde, donc tous les quartiers vont être représentés. Il y a aussi des ateliers ouverts au public, donc c'était comme ça que je voulais représenter le monde. Et puis de brasser tout le monde, parce que des fois c'est sous forme de panneaux, des panneaux qui vont se mettre les uns à côté des autres. Donc ça va être aussi une grande mosaïque à reconstituer pour le carreleur. Ça, ce sera plus tard, on va dire, plus qu'au milieu de l'année, plutôt cet été. Et donc voilà, comme disait Marine, il y a des gens qui vont passer après d'autres, parce que certaines ne seront pas finies, on ne met pas trop la pression aux gens, le travail, il évolue au fur et à mesure. pour que chacun puisse y laisser sa patte. Et en fonction des publics, de leur dextérité, de leur rapidité, bah, les panneaux seront plus ou moins finis. Donc d'autres les récupéreront et puis pourront travailler au travers, voilà, pourront ajouter leur petite touche, leur tesselle à l'édifice.
Parce que oui, Marie-Martin, vous êtes en charge de ces ateliers et c'est pas trop difficile de transmettre cette technique précise de la mosaïque. Enfin, comment vous faites pour l'adapter à chaque public et que chaque personne transmette du coup sa personne, son histoire ?
Eh bien, moi, ça fait longtemps que je donne, que je fais des ateliers. Donc là-dessus, c'est assez fluide pour moi. Et bah, ça va varier en fait en fonction des gens. En fait, je souhaitais quand même, et ça c'était dans la note d'intention aussi, en plus d'être un outil citoyen, c'était aussi une valorisation des métiers d'art. Donc je viens quand même avec une certaine exigence que je vais adapter à chaque public. Et donc voilà, je leur transmets, on va dire, les bases de la découpe. Quand ils sont trop petits, par exemple, dans des écoles, en CP ou en CM1, et encore, ils le font, et ils y arrivent. Il va y avoir des adultes qui vont être là pour les aider à découper, mais je vais les faire observer comment est-ce qu'on découpe, où est-ce qu'on découpe, pourquoi on découpe là et pas là, quel mouvement on donne. Donc voilà, je transmets la découpe, je transmets l'observation, la juxtaposition, l'enchaînement des couleurs. Il y a des donc Marine transmet des éléments, elle la partie graphique qui est imprimée sur des panneaux qui font en gros 40 cm sur 1 mètre et on a gardé des mouvements intérieurs que les gens vont suivre et ensuite s'ils ont envie, moi je leur propose de s'arrêter un instant et de laisser leur empreinte, laisser leur signature. On va changer de vocabulaire selon à qui on s'adresse. Et puis bref, les gens comprennent ce qu'ils ont à faire. Et là, ils peuvent, je sais pas, certains vont faire des fleurs, d'autres vont faire un symbole qui leur plaît. Il y a toutes sortes de choses qui seront à découvrir quand les mosaïques seront installées. Voilà.
Et puis, il y a une partie qu'on a ajoutée. En fait, il y a deux parties qu'on a ajoutées sur ce projet-là. Enfin, on a greffé deux personnes qui ont d'autres compétences et qui sont venues en complément. Il y a Lila Rosé, qui est artiste céramiste, et Lucille Millard, qui va faire de la captation sonore. C'est toi qui vas dire, justement. C'est juste pour la partie... avec Lila Rosé, en fait, on a choisi de faire des petites inclusions de céramique qui se font aussi dans d'autres ateliers, ou des fois en commun avec Marie. Et c'est comme des inclusions, comme des petits fossiles qui seraient cachés, un peu disséminés partout dans le projet. Et donc, c'est la technique des terres mêlées, parce que ça, c'est vachement important, la technique des terres mêlées. C'est trois terres de couleurs différentes qui permettent de dessiner, en fait, juste par la manipulation de la terre.
Parce que oui, Marine Fugaz, vous êtes en charge de la direction artistique de ce projet. Est-ce que vous avez eu quelques inspirations ou pas d'où viennent vos idées ?
Ben, en fait, mon projet, c'était déjà de me dire je ne maîtrise pas la mosaïque. Et donc, on se connaissait de loin déjà avec Marie. On en avait échangé. Et quand on a été retenus en parallèle, ben, c'était super enthousiasmant. Et du coup, en fait, ce qui m'inspirait, c'était mes non-compétences. Donc, plutôt de me tourner vers Marie et de voir, par exemple, quand on a fait des choix de couleurs ou des choses comme ça, c'est vraiment ensemble qu'on a fait ça. Et c'est la collaboration a commencé là aussi. C'était ça qui était important. C'était pas simplement d'avoir chacune de son côté son projet à soumettre, mais c'était vraiment de co-construire le projet ensemble.
Et justement, si je peux me permettre, et à ce sujet, j'ai oublié de mentionner aussi dans le texte initial du projet, il était demandé de s'inspirer d'Odorico. Et ce que dit Marine me fait rebondir là aussi dans le choix des tesselles. On a choisi des grès céram qui sont, voilà, c'est pareil, on est encore dans la terre qui a été cuite très très forte avec des nuances de couleurs. Et c'est ça qu'on a choisi ensemble ensuite, c'est quelle terre on utilise, quelle couleur on va prioriser dans ce visuel. Et de temps en temps, on va y ajouter quelques petites couleurs autres. On ne fait pas des aplats clairs, tout simples. On continue le mélange même à l'intérieur. On va mélanger, on va ajouter des petites touches qui vont rappeler la strate au-dessus, mais qui vont rappeler une autre strate qui n'a rien à voir. Et donc voilà.
Et pour visualiser un peu plus ce projet, vous en êtes où aujourd'hui? À quoi il ressemble à l'heure actuelle?
Alors le projet, pour l'instant, chaque panneau est bien rangé. Tous les panneaux qui ont été engagés sont tous bien rangés dans un atelier. Ils attendent leur heure. On en est à peu près à plus de la moitié, je crois, des réalisations. Il nous reste avec Caroline plusieurs... il nous reste quoi? Moi, là, je vais beaucoup travailler en école au mois de mars. Ensuite, il va y avoir des sessions en EHPAD, des sessions aux compagnons bâtisseurs de mon côté, dans un lycée, me semble-t-il. Et à la toute fin, au mois de juin, on va emmener tout ça. 33 mètres carrés vont se rendre... à l'hôtel Pasteur, et là-bas, comme je dis, on va broder. On va les. Adapter les uns bien à côté des autres pour que le carreleur puisse bien les disposer ensuite, que ce ne soit pas un casse-tête pour lui. On va tout bien vérifier. Et il y aura encore des ateliers aussi à l'hôtel Pasteur. On sera 3 semaines en résidence là-bas, normalement du 8 au 28, je crois, juin. Et petite parenthèse, je voulais ajouter aussi dans notre giron, on va dire, dans notre team, il y a Johan Gana qui est dans l'audiovisuel, qui tient une boîte de prod et qui accompagne aussi, qui fait des captations pour immortaliser ce projet.
Et donc, pour les Rennais et Rennaises, s'ils sont intéressés encore, aujourd'hui, de participer à un événement, un atelier, comment ils peuvent... vous contacter ou s'y inscrire, comment ça se déroule?
Alors, ils peuvent nous envoyer un mail à octroi.mosaïque@gmail.com. Mais ce ne sera maintenant qu'au mois de juin, parce que là, la session du mois de février affiche complet.
Victime de complet. Succès.
Exactement, il y a une grande file d'attente.
Il y a vachement de demandes, en fait. C'est dingue la réaction des gens. Enfin, même dans la réalisation des ateliers qu'on a pu faire, moi j'en ai fait samedi là, avec ASL qui fait du soutien scolaire au Blône. En fait, c'est génial parce que ça rassemble... Enfin, il n'y a pas besoin de 50 000 lignes de texte pour expliquer le projet. C'est-à-dire que tout le monde se sent appartenir à ça, a envie de le rejoindre, qu'il y a les parents qui font avec les enfants, d'autres qui rameutent des amis. On est assez dépassés, en fait, par ce projet-là. Et voilà, c'est juste des explications simples qui suffisent à avoir une prétention de faire de l'art en commun et d'avoir un art noble, en fait, dans la sollicitation de toutes ces personnes-là.
Bah, merci beaucoup, Marie Martin et Marine Frugès.
Pardon.
C'est pour grave. Cette très belle initiative qui prendra forme en automne 2026.
On espère, oui.
Merci.
Avec une grande
Merci
inauguration.
À vous.
Merci beaucoup.
6h avant minuit.
Tu restes avec nous, Estelle, parce que c'est l'heure de ta chronique.
Et en ce moment a lieu la commission d'enquête sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale. Juste petit contexte pour que vous suiviez tous. Depuis fin octobre dernier, l'audiovisuel public fait l'objet d'une commission d'enquête à la demande du groupe Ciotiste. Elle est présidée par Jérémy Patrier-Leitus, député Horizon, et son rapporteur Charles Alloncle, député Union des droites pour la République. Elle vise à examiner plusieurs points. Le premier, les thèmes développés et les angles retenus par le service public. En gros, de quoi on parle sur les chaînes publiques. Le second, vérifier l'objectivité et la traçabilité des processus de décision. Qui décide quoi et comment? Et enfin, faire le point sur les budgets consacrés à l'audiovisuel public. En gros, comment sont gérés les sous-sous dans un contexte politique obsédé par la réduction des dépenses? Le 2 février était auditionnée Léa Salamé, accompagnée des rédacteurs en chef du 20h de France 2, Hugo Planiard et Julien Dupéré. Et oui, notre très chère présentatrice du 20h a dû faire face aux questions de Charles Alloncle. Et elle y a répondu avec beaucoup de maîtrise. Autre contexte pour ceux qui suivent pas trop les gossips politiques. En gros, depuis 2015, Léa Salamé est en couple avec Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, c'est un député européen du parti Place Publique, régulièrement cité comme potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2027. Et elle savait que la question viendrait, qu'elle serait insistante, voire soupçonneuse. Donc Charles Alloncle a posé la fameuse question.
Chacun le sait, mais
Le conjoint est le plus souvent la personne à qui l'on se confie en toute transparence, que l'on soutient, que l'on accompagne dans ses espoirs et aussi dans ses ambitions. Même si absolument personne ici ne doute de vos compétences journalistiques évidentes, quelles garanties concrètes apportez-vous aujourd'hui aux Français pour assurer votre impartialité, votre indépendance, tant dans le traitement de l'information que dans la ligne éditoriale du journal et plus particulièrement encore dans le choix et le traitement des invités politiques?
Face à cette question, Léa Salamé a répondu droit, sans haussement de voix, sans colère, avec une ligne très claire, indépendance et liberté de penser. Voici sa réponse.
Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, je veux d'abord dire ici, et c'est important, qu'avant d'être la femme de quiconque, je suis une journaliste indépendante, honnête et une femme libre.
Parce que oui, en 2026, nous les femmes, nous sommes encore obligées de rappeler que nous sommes libres. Elle ne nie pas la légitimité de la question et elle y répond par les faits. En 2019, lorsque son compagnon s'engage dans la campagne européenne, elle se retire de l'antenne le jour même. Et ce, malgré l'avis contraire de sa hiérarchie qui n'en voyait pas la nécessité. En 2024, elle applique la même règle, lors des élections européennes. Donc pour demain, même principe.
Si les candidats, je sors de l'antenne.
Cette réponse, elle surprend personne. Elle a toujours été claire sur ce point. Lors de son arrivée aux 20h en septembre dernier, le principe avait déjà été posé par France Télévisions. C'est net, elle ne s'accroche pas, elle se retire. Mais sa réponse ne s'arrête pas là.
Je reçois près de 400 invités par an. Vous pouvez juger que mes interviews sont bonnes, moyennes ou ratées, mais jamais personne n'a pu entendre que mon compagnon ou quiconque tenait mon stylo. Je n'ai jamais fait une seule interview sous l'influence de quiconque. Et pensez-vous vraiment qu'en 2026, une femme pense forcément comme son mari, qu'une femme vote forcément comme son mari, qu'une femme prie comme son mari, qu'une femme fait ce que lui demande de faire son mari? Vous pensez sérieusement qu'on en est là? Je le pense pas, moi.
Elle précise qu'elle ne parle pas d'un principe féministe, mais républicain, et retourne la question. Pourquoi se retire-t-elle à chaque fois? Et c'est par souci d'indépendance, pour ne pas abîmer le lien de confiance avec les Français, pour éviter le moindre doute, la moindre suspicion.
Mon indépendance, mesdames et messieurs les députés, c'est mon talisman. J'y tiens plus que tout.
Et elle conclut par ce perfect.
Et aujourd'hui, il est député européen. Moi, je mène mon travail en toute impartialité, en toute indépendance. Personne ne me tient le crayon. Et je ne suis pas une femme sous influence.
Franchement, c'est une réponse plutôt solide. Et on pourrait croire que le sujet est clos. Mais que nenni. Charles Alloncle pose une nouvelle question, clairement piégeuse. Pour le bonheur de tous, on va se l'écouter.
Est-ce que vous pensez vraiment que si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, vous seriez aujourd'hui toujours à la tête du journal de 20h de France 2?
J'ai regardé l'audition dans son intégralité. Et je peux vous dire qu'à ce moment précis, la tension a été palpable dans la salle. On a même assisté à une petite chamaillerie entre le président de la commission, Jérémy Patrier-Leitus, et le rapporteur. Bon, la question, elle a un double sens. Grosso modo, votre compagnon est à gauche, donc c'est acceptable. Mais qu'en serait-il s'il appartenait au Rassemblement National? Toujours avec la même maîtrise, Léa Salamé espère tout bonnement que, je cite, « Si la compagne de Jordan Bardella était journaliste, elle pourrait continuer à exercer sur une chaîne privée, comme publique. » Charles Alloncle se défend en assurant qu'il poserait la même question à un homme. Il cite l'exemple de Laurent Delahousse en couple avec Marine Tondelier. À cet instant précis, l'audition bascule. On quitte la déontologie pour entrer dans une mise en scène politique. Et Léa Salamé, sans hausser le ton, recentre le débat sur ce qu'elle maîtrise. La règle, la transparence, l'indépendance. Au moment de ces questions, deux choses apparaissent clairement. D'abord, que le rapporteur teste la frontière entre vie privée et information publique. Et ensuite, en 2026, une femme peut être encore réduite à l'ombre de son compagnon. Et ça, c'est profondément désolant.
Tu m'embouches un coin. Merci Estelle, dans 3 semaines.
Yeah,
pour une prochaine.
Pour une prochaine.
Ça t'embouche un coin.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
On va bientôt se quitter, mais avant, on va checker voir s'il y a un message sur le répondeur.
téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllabe, la radio sauvage.
Et non, pas aujourd'hui, mais laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Dites-nous tout ce que vous avez sur le cœur. On vous écoute. C'est bientôt les municipales. Je suis sûre que vous en avez gros. Et bah, dites-nous tout sur le répondeur de 6h avant minuit. On diffusera tout ça à la fin de l'émission. Merci Maud pour la technique. À demain dans 6h avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.